Bon, alors il m'a évité la peine de me présenter, ce qui est toujours pénible, donc je ne vais pas revenir là-dessus. Le bouquin dont on m'a demandé de vous parler aujourd'hui s'appelle « La terrorisation démocratique ». Les amoureux de la langue française auront remarqué que ça n'est pas un mot français, c'est un mot anglais. En français, c'est donc un anglicisme. Pour une fois, il me paraissait intéressant de l'introduire dans la langue française pour désigner ce qui m'est apparu comme une stratégie d'État et un mode de gestion qui s'est développé en France depuis de nombreuses années, mais surtout depuis 1986, avec un accélérateur avec le 11 septembre, les attentats contre le World Trade Center. Je vous ferai une petite chronologie tout à l'heure. Cette stratégie d'État, ce nouveau mode de gestion de la société, qui est évidemment un mode de gestion plus autoritaire et plus policier, mais pas seulement, utilise principalement trois figures dangereuses, trois épouvantails, comme on parlait au XIXe siècle de classes dangereuses. Le terroriste, avec tous les guillemets que je ne vais pas indiquer à chaque fois avec les mains, donc que vous êtes priés d'entendre, à chaque fois que j'utilise le mot terrorisme, et terroriste d'ailleurs. Non pas qu'il n'existe pas de vrai terrorisme, mais il faut savoir de quoi il s'agit à chaque fois. Donc le terroriste, l'étranger, sachant que le terroriste, vous vous souvenez des guillemets, est souvent étranger ou d'origine étrangère, et le jeune. Le jeune étant lui-même d'origine étrangère, et donc, logiquement, un terroriste, c'était la dernière fois, en puissance. Cette stratégie d'État se caractérise par un empilement de lois répressives qui vont toutes en gros dans le sens d'une répression accrue et d'une restriction des droits démocratiques supposés acquis dans nos sociétés. En gros, l'état d'exception devenant la règle, puisqu'on ne sait jamais quand l'ennemi terroriste peut frapper. On va de plus en plus vers une situation pardon, où des dispositifs exceptionnels et justifiés par l'exception sont conservés dans le droit courant. Pour autant, ça n'est pas un système rationnel parce que je suis désolé s'il y a parmi vous des admirateurs du capitalisme, mais le capitalisme n'est pas un système rationnel. C'est un système qui prétend à la rationalité, qui a quelques éléments de rationalité, par exemple la recherche du profit, mais qui se caractérise par ailleurs par un très grand désordre, notamment dans son appareil législatif, ce qui fait que, et c'est une consolation pour nous, je pense, une manière de nous rassurer, les promoteurs de ce système d'empilement de lois répressives ont eux-mêmes beaucoup de mal à s'y retrouver. Elles sont souvent contradictoires les unes avec les autres, et ils sont tellement persuadés qu'ils en ont trouvé une encore meilleure qu'en général, j'exagère en disant en général, il n'est pas rare qu'ils n'attendent pas que les décrets d'application de la loi précédente aient été publiés pour en sortir une autre. Le citoyen de base ne suit ça que de très très loin, donc il n'est même pas au courant de ça. Ça vous donne une idée de ce que ça peut donner au niveau des gens chargés d'appliquer ces lois. Ils n'ont pas le temps de les lire, de les comprendre, de s'apercevoir que telle disposition est contradictoire avec la circulaire d'application de la loi précédente. Bon. Tout ça donne un assez grand bordel. Une multiplication, par exemple, de fichiers dont, vraiment, à l'heure actuelle, personne ne sait plus très bien combien il y en a, lesquels sont, ils savent plus desquels il faut parler, lesquels sont secrets complètement, il y en a qui sont oubliés, de toute façon, ils sont inexacts. Le fichier des infractions qui s'appelle le STIC, la CNIL estime qu'il y a 20% des fiches qui sont exactes, ce qui veut dire que 80% sont inexactes. Alors, ça n'est pas qu'une raison de se réjouir, parce que ça peut causer de gros ennuis à quelqu'un dont la fiche porte des infractions qu'il n'a pas commises, par exemple. Mais c'est pour donner une petite indication de ce qui est la tonalité générale de mon livre et de ma position là-dessus, c'est-à-dire que, certes, il y a des gens dans l'appareil d'État dont le rêve, qui est notre cauchemar, ressemble à quelque chose qu'on pourrait appeler Big Brother ou 1984, mais ils sont très mauvais, ils sont très 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 loin de leur rêve, et en fait, à chaque fois qu'ils croient avancer, c'est-à-dire qu'il y a une étape de plus dans leur esprit, vers un truc de contrôle total, de surveillance absolue, où tous les ficheries seraient interconnectés les uns aux autres, et ça serait merveilleux, il n'y aura qu'à appuyer sur une touche d'un ordinateur. Pour savoir qui est monsieur machin, combien il y avait les tablettes de chocolat à 12 ans, etc. Et plus ça va, plus ils compliquent le truc. Ils vont pas vous dire ça, hein, évidemment. Ils disent non, on contrôle tout. C'est, d'ailleurs, on a eu l'idée d'une autre loi et d'un autre fichier. Puis les ministres changent, ils en rajoutent comme ça. Personne ne sait comment ça marche. Ça c'est une façon de se rassurer. Ça ne rend pas les choses sympathiques. Je vous dis pas que ce sont des dilettantes agréables, mais leurs moyens techniques sont extrêmement importants et de plus en plus. Mais c'est pas pour ça qu'ils les utilisent. C'est parce que c'est un marché. C'est parce qu'il y a des gens qui fabriquent des caméras de vidéosurveillance et qui les vendent. Et pour vendre les caméras de vidéosurveillance, ils vont faire des conférences en expliquant que l'insécurité augmente, que la délinquance est en progression, et que ça ira beaucoup mieux si on met des caméras partout. C'est pas vrai du tout, y compris d'un simple point de vue policier, à supposer qu'on l'admette deux minutes, mais ça fait vendre leurs produits. Donc tout ça fonctionne avec la seule logique du capital, qui est le profit, effectivement. Et la logique policière, en réalité, n'a pas fait beaucoup de progrès, me semble-t-il. Alors, je vous ai parlé un peu de la multiplication des fichiers. Dans la même logique folle, on accumule et on crée sans arrêt de nouveaux organismes. Je doute beaucoup que les responsables soient capables de vous faire un organigramme au tableau, moi pas, je vous le dis tout de suite, mais à mon avis, eux non plus. Tellement, c'est pareil, ça se multiplie, parce qu'un jour, il y a un mec qui a dit, je pense qu'on pourrait créer un office de surveillance, ah ouais, c'est pas con, il y en a déjà trois, mais on l'a oublié. Alors ça donne par exemple, vous avez le Conseil de Défense et de Sécurité Nationale, CDSN, cette nouvelle structure compte deux formations spécialisées, le Conseil National du Renseignement, CNR, et le Conseil des Armements Nucléaires. Le CNR remplace le Comité Interministériel du Renseignement, CIR, qui était sous la responsabilité du Premier ministre. Vous suivez, parce qu'après il y a une interro, hein, je vous préviens. C'est dans les premiers rangs, c'est pour ça que personne ne sait bien. Qu'est-ce que tout nombre de quatre, on s'y perd. Hein. Les orientations stratégiques et les priorités du renseignement. Les services secrets français. La Direction centrale de la sécurité intérieure, créée officiellement le 1er juillet 2008. 2008, c'est pas vieux. Vous avez entendu parler de la Direction centrale de la sécurité intérieure? Attention, pas la DCRI, hein. C'est encore autre chose. Et regroupant l'ex-direction de la surveillance du territoire, DST, et les ex-renseignements généraux. Voilà, vous aviez la direction de la protection et de la sécurité de la défense. Bon, c'est moi qui fais ça. Voilà. Ça peut pas fonctionner, mais c'est vraiment, c'est plutôt une bonne nouvelle. On a même eu une structure tout à fait remarquable qui s'appelait Alliance Base, qui a été créée fin 2002 à la demande des États-Unis, dis à l'initiative des États-Unis, on va dire, qui regroupait les USA, la Grande-Bretagne, la France, l'Allemagne, le Canada, l'Australie. C'était basé à Paris. Alors, ce qui a suscité immédiatement des réticences françaises. Vous êtes sûr que vous voulez mettre ça à Paris? Parce que, bon, ça fait un peu cible quand même. On a un métro, nous. Alors, ben, ils disent, oui, ben, nous aussi, on a un métro. On veut pas que ça soit chez nous. Bon, ils ont fait ça à Paris. Ils ont quand même arrêté 60 personnes, ces gens-là. On ne sait pas qui c'est, on ne sait pas où ils ont arrêté, on ne sait pas pourquoi ils les ont arrêtés, on ne sait pas ce qu'ils en ont fait, et on ne sait pas qui sont les agents de cette agence, Alliance Base, mais ce qu'on sait, c'est qu'elle a pris fin à l'été 2009, parce qu'il y a eu trop de tirages entre les États-Unis et la France. Donc quand on vous dit que sur des questions fondamentales comme le terrorisme, on oublie les rivalités nationales, politiques, c'est main dans la main, on est tous ensemble. C'est pas vrai du tout. C'est pas vrai du tout. Et ça peut amener à la fin discrète d'une agence qui paraissait promise à un brillant avenir. Alors je reviens un petit peu sur la chronologie dont j'ai parlé tout à l'heure. J'ai pris la date de 1986, on aurait pu remonter plus haut, mais elle est intéressante parce que, d'abord, c'est l'amorce d'un tournant géostratégique. On est peu de temps avant la chute du mur de Berlin, et il arrive que ces gens-là aient quand même des intuitions. Ils se sont dit, bon, peut-être que le stalinisme d'État, les pays de l'Est vont pas éternellement servir de repoussoir aux démocraties occidentales. Il faudrait peut-être trouver un truc, autre chose qui fasse un peu peur, qu'on puisse utiliser comme ça. Ils sont mis à cogiter sur tout ça. Et ils ont introduit dans la législation, alors en France, hein, un élément qui est inscrit dans la loi tel quel, le mot subjectif. Parce que jusqu'à présent, en gros, tout le monde pensait qu'un terroriste, c'est quelqu'un qui pose une bombe. Voilà. Il peut être d'extrême droite, il a pu être anarchiste, c'est une histoire douloureuse que nous connaissons bien, mais on voit le geste, hein, il fait sauter un bâtiment ou un restaurant. Voilà. C'était trop simple et surtout trop restrictif. Donc la loi française a introduit dans la définition du terrorisme un élément dit subjectif, c'est-à-dire que est considéré comme terroriste quelqu'un qui a des intentions terroristes. Alors vous me direz, ben, on ne sait pas ce que c'est que des intentions terroristes. Mais oui, mais c'est ça l'intérêt justement. C'est que ce sont les agents de l'État qui décident de ce que sont des intentions terroristes et qui décident ensuite des preuves qu'elles trouvent chez les gens. Alors, vous avez vu ça avec l'affaire de Tarnac, par exemple. J'ai quelques citations, je ne vais pas vous assommer avec ça. On y reviendra peut-être dans la discussion. Vous avez des déclarations de gens qui sont quand même assez haut placés dans le renseignement en France et qui disent « Oui, mais regardez, ils vivaient en communauté, entre eux. On voit bien qu'ils aiment pas la société. » Voilà des éléments subjectifs, subjectivo-matériels, si vous voulez, ou à la fois matériels et subjectifs, qui montrent bien que ces gens, quand même, bien que pour l'instant, on n'arrive absolument à rien trouver à leur mettre sur le dos de sérieux, à part que, bon, c'est des gens qui ont réinventé le jardin de curé, en gros, hein, ils cultivent des tomates, ils en donnent, et, enfin, bon, ils ont une vie un peu bizarre, quoi, à la campagne. Voilà des éléments subjectifs qui peuvent être utilisés tout à fait légalement. À la grande surprise des intéressés eux-mêmes, n'est-ce pas? Parce que les inculpés de l'affaire de Tarnac se sont retrouvés dans des locaux, interrogés par des gendarmes. On disait, ben voilà, vous êtes soupçonné d'activité terroriste. Ah oh bah, ben, terroriste, n'a jamais posé de bombe. Alors les gendarmes un peu gênés, oui, vous savez maintenant, c'est plus tout à fait comme ça. C'est drôle, c'est les gendarmes qui expliquent à de jeunes intellectuels surdiplômés que le monde a changé, qu'il faut se mettre au courant peut-être, le sens des mots n'est plus tout à fait le même qu'avant, voilà. C'est commode, j'ai pris une progression de 10 ans en 10 ans, parce que on pourrait rentrer dans plus de détails. Il y a des lois sans arrêt nouvelles, notamment sur des questions comme la garde à vue. Ça décourage absolument le travail de veille, parce que il suffit que vous pensiez à autre chose 5 minutes, pouf, ils ont décidé d'augmenter la durée de la garde à vue. Alors toujours quelqu'un qui dit, mais enfin, c'est la 12e fois en 6 ans qu'on a... Eh ben oui, mais bon, voilà. Encore un petit peu, ça ne peut pas faire de mal. Alors en 96, on a créé l'association de malfaiteurs en relation avec une entreprise terroriste, qui était en somme la mise en forme juridique de cet élément subjectif qui datait de 86. Donc il y a quand même une espèce de cohérence quand même, hein. Vous sentez bien qu'il y a une intention là qui se poursuit. Ces gens ne sont pas aussi irrationnel que je l'ai dit tout à l'heure peut-être. La particularité française s'est présentée comme une caractéristique nationale, un peu comme le nombre de fromages ou des choses comme ça. C'est la neutralisation judiciaire préventive. On retombe sur la notion de subjectivité et l'affaire de Tarnac, hein, qui est un bon exemple, surtout parce que tout le monde le connaît, pas parce que c'est le seul. Il y en a énormément d'autres. Mais celui-là, on en a entendu parler. La neutralisation judiciaire préventive, ça veut dire qu'on intervient avant qu'il y ait un délit. Alors, bon, évidemment, ça pose un petit problème juridique et pénal. S'il n'y a pas de délit, il n'y a pas de coupable. Oui, mais bon. Vous voyez, toute la difficulté, ça, c'est à l'objection juridique. Les responsables du renseignement disent, alors, vous voudriez qu'on attende qu'ils aient posé la bombe? C'est ça? Ah ben, non, évidemment, si vous répondez à une question, ben non. Et ben voilà. Donc, on les arrête au 15 août. Ce qui fait que dans des affaires très nombreuses, mais qui visent en général des gens moins diplômés que Julien Coupa, moins blancs que Julien Coupa, il faut bien le dire, ayant moins de relations que Julien Coupa. Vous avez des gens arrêtés par dizaines qui sont placés en détention, on les relâche. On n'est pas des brutes. On n'est pas comme ça ici. Ils sont innocents. Bon, enfin, innocents. On n'arrive pas à démontrer qu'ils sont coupables. Très bien. On les relâche. Ils ont fait 4 ans de tôle. Bon. Ça, hein. Et voilà comment, en tout cas, ils ont été neutralisés. Pendant ces 4 ans, on est sûr qu'ils ne posent pas de bombe. Voilà. Et puis, éventuellement, sur 10, on va en retenir 1 ou 2, parce qu'ils avaient, ça peut être pour n'importe quoi d'autre, hein, pour un délit quelconque. Imaginez un peu qu'on vienne chez vous et qu'on épluche tout. Est-ce qu'on ne pourrait pas arriver à trouver que l'année précédente, vous avez un peu fraudé votre déclaration d'impôt? Cette répression qui se dit antiterroriste utilise aussi très largement tous les moyens d'un harcèlement administratif contre un milieu qui est supposé, alors à tort ou à raison, parce que là, pour le coup, moi, je n'ai pas de moyens d'émettre une opinion réelle là-dessus. On ne peut analyser que les affaires qui ont lieu réellement, c'est-à-dire les gens qui sont mis en prison, et encore quand on le sait, ce qui n'est pas toujours le cas. Parce qu'il y a des gens qui sont arrêtés, ils passent 2 ans en taule, ils sortent, ils ne sont pas politisés, on n'en entend jamais parler. Il y a tout un milieu associatif, notamment, et de commerce, que les services de renseignement considèrent, donc à tort ou à raison, comme étant un vivier possible pour de futurs éventuels subjectivement terroristes islamistes. Et donc, on les fait chier sans arrêt, on est sur leur dos tout le temps, mais pas avec nécessairement une inculpation de antiterroriste sur, je sais pas quoi, les services de l'hygiène si c'est un resto, la comptabilité et le contrôle fiscal si c'est une association, etc., etc., etc. Il y a un jeune universitaire qui s'appelle Laurent Bonelli qui a écrit un bouquin sur l'après 11 septembre qui estime que ça représente depuis le 11 septembre en tout cas environ 3000 personnes par an qui sont inquiétées d'une façon ou d'une autre. Ça ne va pas nécessairement jusqu'à l'incarcération, mais emmerdées d'une façon ou d'une autre sans qu'on ait de raisons sérieuses de penser qu'ils aient même commis des délits. Mais c'est une façon de maintenir la pression sur ce qui est supposé être un milieu propice. Ensuite, toujours dans la chronologie, arrive le 11 septembre 2001, dont j'ai parlé tout à l'heure. Alors, le 11 septembre, les attentats ont lieu. Le 19 septembre, tout de suite après, l'Union européenne dépose une proposition, fait une proposition de décision cadre. Vous savez que maintenant, une bonne partie de la législation s'élabore au niveau européen et qu'elle s'impose aux États de l'Union européenne, ce qui fait pleurer les souverainistes, mais ce qui est effectivement assez pervers comme système, parce que ça permet, en l'occurrence, le 11 septembre a permis à l'Union européenne de sortir un dossier qui était déjà prêt, évidemment, et qui est largement inspiré par Washington, mais ils attendaient la bonne occasion pour le sortir. Excellente occasion, le 11 septembre, c'est parfait, ils sortent ça. Ensuite, chaque chef d'État vous dira, et chaque ministre de l'Intérieur, ah ben oui, mais c'est l'Europe, ça. Hein. On doit mettre notre législation en conformité avec les dispositions européennes. Et nous voilà avec une nouvelle définition du terrorisme, mais cette fois-ci à l'échelle européenne, et qui donc vaut dans tous les pays de l'Union. Ça fait trois pages, je ne vais pas vous infliger tout ça. Mais vous allez voir qu'on est passé de la subjectivité à un truc très clairement politique. Les buts recherchés par le terroriste, je crains que certains d'entre vous et certaines d'entre vous se reconnaissent au passage, la liste des délits est infinie. Vous avez qu'à imaginer un des délits que vous connaissez, du plus petit au plus grand, il est dans la liste. Il n'y a aucun doute. Voilà. Et tous autres, au cas où ils en ont oublié, hein, pareil, trois pages. Donc tout délit peut être qualifié de terrorisme, absolument sans exception, pourvu qu'il soit commis dans le but de contraindre indûment des pouvoirs publics ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque. Vous avez là la définition de l'action politique, militante, associative, dans son ensemble. Avec ça, vous êtes paré. Quoi que vous fassiez, c'est nécessairement, politiquement, syndicalement, associativement, c'est nécessairement dans le but soit d'empêcher une institution de faire ceci, soit de la pousser à faire cela, naturellement, eh bien, vous entrez dans le cadre de cette définition. Vous êtes aussi gravement déstabilisé, ça c'est pour les gens plus ambitieux, ou détruire les structures fondamentales, politiques, constitutionnelles, économiques ou sociales d'un pays ou d'une organisation internationale. Voilà. Par exemple, critiquer le directeur du FMI, c'est quand même porter atteinte gravement à une machin, organisation internationale, tout ça. Voilà. C'est bien, ça permet de recruter facilement, parce que les gens disent, bon, pour où j'en suis, je suis compromis, je signe. C'est prévu d'ailleurs, le recrutement c'est prévu, mais par la suite. Autre point important après le 11 septembre, le mandat d'arrêt européen. C'est un système qui suppose la reconnaissance mutuelle des États de l'Union européenne entre eux. C'est-à-dire chacun reconnaît la légitimité de tous les autres. Et concrètement, un juge d'un État européen peut faire arrêter n'importe quel citoyen de n'importe quel autre État sans que l'État en question puisse s'y opposer, sauf si une partie de l'infraction a été commise sur son territoire. Un exemple pour mieux comprendre, vous êtes allé en Italie, vous avez manifesté à Gênes, vous êtes reconnu sur une photo, ou on prétend qu'on vous reconnaît sur une photo et qu'on peut vous identifier, un juge italien de Gênes vous fait arrêter chez vous, à Pau. Il n'y a aucun recours contre ça, il en a absolument le droit. Vous êtes remis à la police italienne, et vous vous débrouillez après, donc il y a intérêt à connaître la langue, avoir des amis sur place. Alors, ce système, au début, a été considéré comme un truc très très marginal et qui ne serait utilisé, c'est ce que tout le monde dit, hein, bien sûr, toujours, enfin, on dit, oh, ça doit être pour les Basques, en général. Hein. Et de fait, c'est aussi pour les Basques, beaucoup. Mais pas seulement, ce qui fait que entre 2002 et 2010, il y a eu 14 000 mandats d'arrêt européens, c'est-à-dire une explosion de la circulation intra-européenne des mandats d'arrêt. Les expulsions sont obtenues dans un temps incroyablement réduit par rapport à ce que c'était avant. Et alors au début, c'est vachement bien, parce que voilà, ça va plus vite pour les Basques. Et puis ils se sont aperçus qu'il n'y a pas quand même 14 000 Basques à faire circuler entre la Pologne. Ils disent, qui est-ce qui se fait arrêter? Et la réponse, c'est n'importe qui. N'importe qui, parce que il est soupçonné de ne pas avoir payé son hôtel, par exemple, il est parti sans payer. Ou il est soupçonné d'avoir piqué à l'aventure d'un... N'importe quoi, n'importe quel délit entraîne maintenant, à la discrétion des magistrats européens, l'émission de mandat d'arrêt européen. Ce qui fait que des gens se retrouvent avec une prolongation imprévue de leurs vacances ou une suite imprévue de leurs vacances, détenus dans des pays où ils allaient quelquefois, soit pour les vacances, soit pour le boulot, avec de grandes difficultés avec la langue, avec les avocats. Et figurez-vous que le 14 décembre 2011, c'est-à-dire 7 ans après... C'est tout récent, et c'est 7 ans après l'entrée en vigueur du mandat d'arrêt européen, on a décidé qu'il pleuve, qu'il vente, qui que ce soit qui sera arrêté en fonction d'un mandat d'arrêt européen aura le droit de savoir ce qu'on lui reproche. 7 ans. Il a fallu 7 ans. Alors pourquoi? Parce qu'au début, de toute façon, les Basques, ils parlent le basque, c'est pas la peine de s'endetter à leur expliquer leurs droits en polonais, je sais pas quoi. Ça concerne que ces gens-là, on s'en fiche complètement. Et puis, ils se sont aperçus que c'était n'importe qui. Et alors, qu'est-ce qui gêne l'Union européenne là-dedans? Eh bien, ils se sont avisés que ça risquait de remettre légèrement en cause la confiance que les citoyens européens ont dans le système judiciaire européen, ce qui ne veut rien dire, c'est juste qu'ils ont compris que ça pouvait être un problème pour le tourisme. Revoilà dans la bonne vieille logique, ça pose un problème de profit. Ah ben alors disons, on va dire, ah oui, non, mais qu'est-ce que j'apprends alors? On peut être arrêté, on ne vous dit pas pourquoi, et on vous fait pas connaître vos droits dans votre langue. C'est absolument incroyable. 7 ans plus tard. C'est pour vous dire à quel point tout ça est moderne. Voilà pour le mandat d'arrêt européen. Au passage, je rappelle, puisque c'est dans la tonalité de ces journées libertaires de cette année, que le Parti socialiste a voté avec un bel ensemble le mandat d'arrêt européen. Monsieur Badinter, qui a pourtant une réputation de défenseur des droits de l'homme, hostile à la peine de mort, etc., etc., a déclaré que c'était un progrès tout à fait conséquent dans l'harmonisation judiciaire européenne. Il est probable qu'il n'avait pas bien compris non plus que ce serait un obstacle au tourisme. Hein. Alors, je ne sais pas s'il a fait des déclarations sur le tourisme. Enfin, d'abord, il a dit que c'était très bien, qu'il était très content. Bien entendu, et c'est vrai pour, en gros, l'ensemble, avec des petites exceptions à tel moment, à telle ou telle étape du processus, mais dans l'ensemble, cet arsenal dit antiterroriste, qui en réalité permet, pas systématiquement, mais à la demande, le jour où, selon la convenance politique de tel État à tel moment, de réprimer n'importe quelle action politique, tout ce dispositif a été mis en place avec un assez large consensus, y compris à gauche, en tout cas la gauche du gouvernement. Vous avez pu voir d'ailleurs à la précédente campagne présidentielle, ça se vérifie encore maintenant, que quand Ségolène Royal, qui se présentait comme la meilleure candidate anti-Sarkozy, elle avait là un argument facile, en plus ça ne coûte pas un rond. Supprimer des lois répressives, c'est facile, c'est pas comme de trouver de l'argent pour les hôpitaux ou pour l'éducation nationale. Bien simplement, tout ça là, corbeille. Jamais elle n'a dit une chose pareille, pour une raison simple, c'est que d'abord, probablement personnellement, elle n'est pas du tout hostile à ce genre de dispositif, et en plus, on ne sait jamais si ça risque pas de faire perdre des voix en réalité, et de toute façon, ils n'ont pas l'intention du tout de changer quoi que ce soit à faire. Donc, c'est on est dans une situation qui ressemble pas mal, par certains côtés, à la situation de 1914, c'est-à-dire il y a une espèce de politique d'union sacrée où, alors c'est plus les Prussiens, l'Allemagne, ça, c'est l'islam, les terroristes, les anarcho-autonomes, etc. Du genre le voile, la cagoule, ça, il y a une espèce de... Hein, il y a un lien quand même. Mais le consensus politique fonctionne sur le même mode, c'est-à-dire que c'est très difficile, y compris pour un politicien honnête, je m'excuse pour cette expression contradictoire, d'aller la contre parce que on va lui brandir immédiatement des photos de vrais attentats qui ont vraiment eu lieu, comme l'attentat de la rue de Rennes dont je parle en américain. Quand on a des photos de gens en petits morceaux à la une de François, c'est assez difficile de, et puis même c'est un peu tard, de faire prévaloir la raison, la mesure, de dire oui, mais bon, voilà. Donc ça marche comme ça. Je parlais de la gauche, on a eu fin 2001 la loi sur la sécurité quotidienne, lorsque M. Jospin était Premier ministre. Il est vrai qu'il a déclaré que son programme n'était pas socialiste, donc probablement la loi sécurité quotidienne non plus. C'est un des innombrables fourre-tout de ces dernières années, avec toujours augmentation de la garde à vue. Ça, c'est un truc de base, c'est un des trucs qui marche toujours. En 2005, vous avez la Convention pour la prévention du terrorisme, qui est entrée en vigueur en août 2008, qui vise la provocation publique à commettre des infractions terroristes, le recrutement et l'entraînement. Alors on se dit, bon, bah, sauf au Pays Basque peut-être, il ne doit pas y avoir beaucoup de camps d'entraînement en France, mais c'est parce que vous n'avez pas présent à l'esprit les progrès de la technologie, en fait, le recrutement, ça vise Internet. Pourquoi Internet ? Parce qu'Internet, il suffit de décréter que c'est un camp d'entraînement virtuel. C'est une expression qu'on trouve dans les documents de la Commission européenne. Internet étant un camp d'entraînement virtuel, je ne veux pas dire grand-chose, mais enfin... La technologie, c'est toujours la même chose. On dit, rendez compte, les pédophiles utilisent Internet. Oui. Je veux dire, ils sont pédophiles. Ils ne sont pas colombophiles. Sinon, ils resteraient aux pigeons voyageurs. Mais c'est pas Internet. Ils sont de leur temps. Et les bandits en auto utilisaient des tractions avant. Ah oui, des tractions avant. Pourquoi voulez-vous qu'ils utilisent les mêmes vélos que la police ? Il faudrait être con. Alors, aujourd'hui, effectivement, il y a des gens qui utilisent Internet pour faire de la propagande, pour tout et pour n'importe quoi. Donc aussi bien pour des groupes islamistes, voilà. Ce qui permet de justifier toute espèce de politique de contrôle d'Internet en disant que c'est de la prévention antiterroriste. Nous avons comme étape, que j'ai évoquée tout à l'heure, la fusion des renseignements généraux et de la DST dans la DCRI, Direction Centrale du Renseignement Intérieur, DCRI qu'on a beaucoup entendu à propos de Tarnac, dont on entend encore parler, dirigé par un monsieur Scarsini, je crois, c'est ça, qui est... Alors voilà, on est dans le sujet, qu'est-ce que la gauche va changer ? Le directeur de la DCRI. Super. Super. Bon. Non, ça vous va. Et alors, le dernier avatar en date, septembre 2011, c'est tout récent, la Commission européenne a créé un réseau de sensibilisation à la radicalisation. Alors, là aussi, on peut se sentir un peu visé, d'autant que... Alors là, on se dit, bon, un réseau de sensibilisation à la radicalisation, bon, ça, c'est pas pour les masques. C'est pour les islamistes. Pas du tout. Pas du tout. Comme ils veulent pas qu'on croit, enfin, qu'on puisse dire qu'ils font un truc contre les islamistes, ils précisent que c'est pas contre les islamistes. C'est inquiétant, en fait, parce que si c'est pas pour qui... L'expérience a montré qu'il n'était pas possible d'établir un lien entre le terrorisme et une confession. C'est du faux cul épouvantable. Il raconte exactement le contraire pendant des décennies. Ensuite, non, on peut pas dire ça. Ou des convictions politiques données. Là, tout le monde sort son mouchoir. C'est pas nous non plus. Ni avec une région en particulier, les Basques. Ouais, bien sûr. Voilà. Dans nos efforts de lutte contre l'extrémisme violent, nous devons donc tenir compte des différentes formes de radicalisation. En réalité, c'est pour tout le monde. C'est ça que ça veut dire. Voilà. Non, mais il faut bien comprendre. Ça varie entre les lignes. Et vous apprendrez avec intérêt qu'on a trouvé 20 millions d'euros sur 4 ans pour ce nouveau réseau de sensibilisation à la radicalisation. Comme quoi, quand on vous dit qu'il n'y a pas d'argent, il suffit de chercher des questions vraiment importantes. Je ne sais pas comment je dois continuer par rapport au temps, dis-moi, parce que moi je peux vous parler de ça. Non, tranquille. Alors, je vais vous dire quelques mots de deux figures que j'ai évoquées, deux figures dangereuses. Les étrangers. Je ne connais pas la situation locale. À Paris, où je vis, il y a plusieurs rafles chaque semaine. Bon, moi j'habite dans le 18e, il y en a beaucoup dans le 18e. Il y a une politique du chiffre, vous avez tout entendu parler de ça, qui permet essentiellement de, d'une part, de présenter des résultats de l'action de la police. Vous voyez, on en a expulsé je ne sais combien de dizaines de milliers, et l'année prochaine on fera encore mieux. Bon. Et ça permet donc d'agiter cet épouvantail. La question des étrangers ne s'articule pas seulement autour de la question des papiers et du travail, même si c'est important et si ça a été mis en lumière par des grèves de sans-papiers ces dernières années, ce qui est important parce que c'est une façon pour eux d'apparaître et d'apparaître sur le terrain social et dans la lutte sociale, ce qui était un phénomène tout à fait remarquable. Mais ça a aussi mobilisé un certain nombre de je sais pas comment on pourrait dire, de réflexes psychologiques très, très nauséabonds, dont on a connu d'autres illustrations dans des années plus antérieures. Je veux parler de tout ce qui tourne autour de la répression de... On ne sait pas comment appeler ça, parce que... Enfin, disons, une espèce de paranoïa sexuelle et génétique concernant les étrangers qui viennent jusque dans nos bras, etc., etc. Enfin, c'est surtout dans les bras de nos femmes, d'ailleurs, semble-t-il, qui viennent. Et alors, il y avait déjà la répression des mariages blancs. Mais alors, je ne sais pas si vous savez, je pense que je ne voudrais pas insulter la province, je suppose que c'est arrivé jusque chez vous, je suppose que vous savez qu'il existe des mariages gris. Qui sait qu'il existe des mariages gris? Alors, bon, qui ne sait pas qu'il existe des mariages gris? Merci. Merci d'être là. Je me sens un peu utile comme ça. Alors, un mariage blanc, d'ailleurs, je ne sais pas s'il y a une définition. Mariage blanc, c'est un faux mariage. Hein. On fait semblant de se marier, mais on n'a pas vraiment l'intention d'être marié. Quelque chose comme ça. Un mariage gris, c'est un mariage où l'un des contractants est supposé avoir menti à l'autre pour l'utiliser, pour avoir des papiers. Voilà. Ah oui, non, mais il fallait le trouver. Oui, c'est pensé. Eh bien, c'est quand même puni de 7 ans de prison et 30 000 euros d'amende. C'est pas une broutille, hein. Voilà. Alors évidemment, quant à savoir comment est-ce qu'on peut prouver que quelqu'un avait réellement... Eh bien, je vais vous dire, c'est pas très compliqué. Il suffit de voir combien de temps dure une union. Chacun sait qu'on n'a aucune raison de se séparer ou de s'apercevoir qu'on sait tout faux. Ça n'arrive jamais dans la vraie vie. Donc, mettons quelqu'un qui est un peu arabe, par exemple, hein, et alors qui épouse quelqu'un qui est français et qui s'en sépare dans un temps trop court, voilà, ça c'est évidemment un comportement éminemment suspect. Il y a suspicion de mariage gris, donc. On a connu aux États-Unis ce qui, pour l'instant, mais il faut, on verra peut-être encore mieux, il faut attendre avec confiance, le maximum de cette paranoïa, de cette vision paranoïaque des choses, ça vient de sénateurs américains qui ont dit, alors il faut faire très attention parce que les terroristes déposent sur le sol des États-Unis ce qu'ils appellent des bébés encres, comme une encre de marine. Je ne comprends pas très bien l'expression, mais bon. L'idée est que des femmes étrangères, terroristes bien entendu, viennent accoucher aux États-Unis pour que leur enfant ait la nationalité américaine. Ensuite, elles les ramènent dans des camps d'entraînement. Par où ? Pays basque. Quand ils sont formés, quand ils savent, vous savez ce que c'est, hein, il faut savoir remonter une Kalachnikov, les yeux bandés, voilà. Quand ils savent tout bien faire, donc vers 10-12 ans, elle les ramène aux États-Unis, et là, ils vont faire sauter ce qui reste du Pentagone. Donc, ils ont attiré l'attention sur ce phénomène qui était passé à peu près inaperçu jusque-là, il faut dire. Donc là, c'est le cas limite du pré-terroriste. À peine sorti du ventre de sa mère, déjà repéré. Bon, ça veut dire que, à la fois, ça, ce sont des politiques qui jouent sur ces angoisses-là, et il y a un cercle vicieux, ça les réactive en même temps, parce que le fait qu'on parle de choses comme ça, délirantes, on en rigole comme ça, mais évidemment, ça sert ensuite à justifier des politiques anti... immigrés, des restrictions de possibilités, on va dire ensuite que quelqu'un qui vient accoucher aux États-Unis, c'est pas pour des raisons médicales, parce que dans son pays, hein, c'est parce que ensuite, ça veut dire que les gens qui sont nés sur le territoire des États-Unis entre telle période et telle période et qui reviennent 20 ans plus tard vont être aussitôt vont faire sonner tous les portiques de détection, ils seront fouillés 10 fois plus que les autres. Ah, ça y est, c'est le retour, le voilà, il passe à l'action. Bon. Donc il y a une espèce de spirale un peu folle qui s'est pour l'instant un peu arrêtée sur ce point précis en France. Vous savez qu'il avait été question de généraliser des tests génétiques pour les immigrés. Non, c'est pas obligatoire, c'est au contraire, c'est une possibilité qu'on va leur offrir. Bon, là, je donne les détails, je vous renvoie au bouquin. Là, ils se sont... il y a eu même des gens, je crois bien que Pasqua, si ma mémoire est exacte, s'est élevé contre l'instauration de tests génétiques. Ah, ça, tiens, on réveille comme ça tout d'un coup... Pasqua était un bébé encre, un retardement prolongé, très 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 retardé, très longtemps. Non, c'est pas ça. C'est que, un test génétique, alors ça veut dire que tout le monde pourrait vérifier que tous ses enfants sont de lui ou pas de lui, c'est ça ? On va pas le faire. On va pas le faire, non, parce que là, il y a des dérives, on voit bien, c'est... Puis, est-ce qu'on n'exagère pas un peu avec ces trucs antiterroristes ? Incroyable, tout d'un coup, et oh là là, ils se sont aperçus que ça pouvait être un peu embêtant. Ça va revenir, évidemment, parce qu'il y a une pression de lobbies qui vendent des tests génétiques de paternité, maternité, machin. C'est évidemment disponible sur Internet, vous pouvez faire ça en douce et en marge de la loi comme vous voulez. Ça reviendra sur le tapis parce qu'il y aura une pression du marché de ces gens-là. Mais pour l'instant, grâce à une certaine inquiétude de la morale bourgeoise, ça nous a été épargné. Et puis, autre figure dangereuse, les mineurs. Alors, ça, le pire devait venir avec Rachida Dati, mais comme ces gens se prennent les pieds dans le tapis pour des raisons qui n'ont rien à voir avec leur... C'est comme Pasqua, quoi. C'est pas leur conscience qui les... ni qui les étouffe, ni qui leur parle... enfin, ils ont des problèmes entre eux de famille. C'est elle qui devait mener la réforme du droit des mineurs, du code pénal des mineurs, et ça s'est pas fait. Et je sais pas quand est-ce que, mais ça va revenir sur le tapis certainement. L'idée, c'est d'en finir avec le droit de la libération, c'est-à-dire l'ordonnance de 45 qui régit le droit des mineurs, qui attribue aux mineurs un statut particulier, ils ne sont pas jugés comme des adultes, les peines sont en gros divisées par deux, il y a des mesures éducatives et pas de directement, ils ne passaient pas comme des adultes en comparution immédiate, c'est fini. Ça a été décidé tout récemment, un mineur peut passer en comparution immédiate sans passer par le bureau du juge pour enfants, et la loi de janvier 2006, la loi antiterroriste à laquelle j'ai fait allusion tout à l'heure, a créé une cour d'assises spéciale pour les mineurs accusé de terrorisme. L'idée étant que mineur, ça ne veut plus rien dire, parce que maintenant, avec les vitamines, la télévision, c'est pas très bien. Bon, ils ont 12 ans, mais ils sont pires que s'ils en avaient 35. Donc, en gros, on supprime le droit des mineurs classiques, avec derrière une espèce de logique historique aussi. C'est pas très difficile à comprendre d'ailleurs, même si c'est un peu brouillon. Concernant les mineurs, c'est l'ordonnance de 45. 45, c'est la libération. La libération, c'est, bon, après une époque un peu troublée, bon, ne revenons pas là-dessus, un moment d'espérance, d'illusion, situation difficile. On est quand même un parti communiste à plus de 40% dans les élections. C'était, on est passé à côté du pire. Et puis, c'était une espèce de revanche sur Vichy. Or, Vichy était une revanche sur le Front populaire. Le Front populaire n'étant jamais que la continuation de la Commune de Paris et de la Révolution française. Sans oublier 68. Donc, vous avez des gens comme... un mec comme Sarkozy, son premier discours, c'est un discours anti-68. 68, c'est fini. Mais à chaque fois qu'ils disent 45, ou qu'ils disent 68, ou qu'ils disent 36, il faut garder présent l'esprit que pour eux, c'est une continuité, c'est un ensemble, ça ne se détache pas. Ils n'ont pas tort, d'une certaine façon. Donc quand ils disent 45, eux disent aussi après 68, avant 36, avant la Commune. Une date signifie toutes les autres. Voilà. Et donc, ils essayent, en utilisant ce qui se passe, ou ce qui ne se passe pas d'ailleurs dans les banlieues, d'éradiquer ce qui reste de dispositions particulières concernant les mineurs. Dernier incident concernant ça, Toussaint, février 2012, vous savez que maintenant, comme il est joliment dit, les établissements publics d'insertion de la défense, ça s'appelle les EPID, vous savez, vous ne connaissez pas. Idéal, le public idéal. Les EPID, donc voilà, c'est des militaires. Il y en a une vingtaine, je crois, en France. Ils sont désormais accessibles aux volontaires juniors sous mandat judiciaire. Alors, volontaire, vous savez que nous vivons dans une société qui fonctionne de plus en plus sur le principe de volontariat. Là aussi, il y a des limites. C'est comme le travail dans les supermarchés le dimanche. C'est sur le principe du volontariat. C'est ça ou la porte. Alors là, c'est volontaire, c'est ça ou la tôle. Il suffit de comprendre, une fois qu'on a bien compris le système, c'est voilà. Alors donc, ils sont volontaires, voilà. Où ils vont en tôle, où ils sont volontaires pour aller chez les militaires. C'était le programme, ça, de Ségolène Royal. Hein. C'est un emprunt honteux au programme socialiste, enfin. Et donc, voilà, ils pourront y rester 6 à 12 mois. Alors évidemment, moi, on donne le choix entre ce truc et en gros une espèce de sous-caserne et la tôle, je choisis la sous-caserne. Parce que par expérience, je sais qu'on peut sortir plus facilement d'une caserne que d'une tôle. Bon, cela dit, vous voyez dans quel sens tout ça va. Je pourrais terminer sur un dernier exemple, si vous avez encore un peu de patience, sur une création européenne. Qui concerne les frontières et un phénomène nouveau qui est l'externalisation des frontières. Je sais, vous, quasiment vous la voyez de vos fenêtres. Alors vous croyez que la frontière c'est en haut de la montagne. C'est tout à fait fini ça. C'est terminé complètement. Les frontières sont très 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 loin. Elles peuvent être à des centaines de milliers de kilomètres au bord d'une mer où on n'a jamais été. Et Pour ça, on a créé une agence européenne qui s'appelle Frontex, oui, en 2004, qui est dirigée par un général de brigade finlandais. J'en parle parce que je suis sûr que personne ne parle jamais de ce mec. J'ai pas son nom, mais on parle pas assez de l'armée finlandaise. Enfin bon. Donc voilà, là, il joue un rôle, et un vrai rôle. En 2010, ils employaient quand même 200 personnes. Leur budget est passé de 6 à 88 millions d'euros, j'en bafouille, entre 2005 et 2011. En 2010, cette agence disposait de 26 hélicoptères, 22 avions légers, 113 navires, et alors tout un petit matériel, radar mobile, caméra thermique, radar. Bon, ça c'est dans des grandes caisses, il y en a 476. Ils peuvent affréter leurs propres avions charter. Et depuis septembre 2011, ça c'est tout récent, ils ont davantage d'autonomie et aussi c'est davantage d'hypocrisie parce que d'une part, Frontex, cette agence, possédera davantage de matériel et pourra le louer sans... C'est des gens... Bon, on sait qu'il est finlandais le mec, hein, mais on ne sait pas ce qu'ils font. Ils font beaucoup de choses, on le sait après. Il n'y a pas de contrôle du Parlement européen. Ils font des rapports, hein, tous les ans. On voit des rapports. Ça doit être compris dans le budget. J'espère qu'on ne paye pas en plus pour des rapports. Mais il n'y a pas de contrôle judiciaire ou... Voilà. Bon. Mais alors, il y a du neuf, là. Depuis septembre 2011, ils vont désigner un officier aux droits fondamentaux. Et alors... C'est là qu'on voyait, il y a quand même un vrai progrès, contrairement à ce que disent les mauvaises langues. En cas de violation des droits de l'homme, qu'ils constateront eux-mêmes, d'autant plus facilement que c'est eux qui les connaissent, pas, ils pourront suspendre leur mission. C'est bien ça. Hein ? Oh non, là, non. Non, arrête de taper, arrête. On suspend notre mission. Bon, on le laisse, on se casse, on tue. Enfin, ils pourront faire ça. C'est une espèce de... Il y a un député suisse, là, ou un ancien député, je ne sais plus. Ziegler, c'est ça, là, une Suisse au-dessus, je ne sais plus. Qui a dit que c'est une espèce d'armée privée. Ça y ressemble beaucoup, hein, en tout cas. C'est un organisme comme ça qui a des moyens énormes. Alors, qui peut organiser des opérations sur des frontières... En immobilisant des centaines de migrants, en mobilisant des milliers de douaniers, vous avez vu, d'hélicoptères, de bateaux, tu vois. Et on sait après, hein, ils racontent après ce qu'ils ont fait. Voilà. Ça, c'est une création typiquement européenne. Et alors, il justifie le fait qu'il n'y a pas de vrai contrôle à des niveaux étatiques par le fait que ils traitent directement avec les autorités de contrôle aux frontières. C'est-à-dire, ils discutent, ils appellent pas Sarkozy, si vous voulez. Ils discutent directement avec la PAF, la police de l'air et des frontières. Voilà. Et donc, bon, pourquoi ils en parleraient à d'autres, on ne sait pas. Hein, voilà. Et ça a pour conséquence que, je disais, les frontières sont plus le long des fleuves ou en haut des montagnes. Ils peuvent être, on peut prendre, nous, comme frontière de l'Union européenne, les frontières de, je sais pas, de la Turquie, par exemple, qu'on ne veut pas voir intégrer l'Union européenne, il ne faut pas déconner non plus. Hein. Bon, mais par contre, que leurs frontières servent de frontière à l'Europe, ça, on trouve ça pas mal. Alors on négocie. Alors ils râlent parce qu'ils disent oui, alors vous voulez vous servir de notre frontière, mais nous on a encore besoin de visa quand on veut venir chez vous. Ben oui, et alors alors on négocie. Ils réclament des visas, on leur donnera des visas. En échange, on va aussi leur construire des centres de rétention administrative, clé en main. On a des... Maintenant, on sait en faire qui brûlent moins vite après Vincennes. Là, c'est... Bon, il y a un petit défaut, mais on fait des progrès. Et puis, on forme leurs policiers aussi. Tout ça, j'allais dire gratuitement. Enfin, gratuitement. C'est dans le budget que nous payons, hein, évidemment. Donc on forme en l'occurrence les Turcs à devenir les gardes frontières d'une Europe où ils n'ont pas le droit de rentrer. Du coup, ça détourne les flux migratoires. Quand vraiment c'est trop pour ceux qui ne meurent pas carrément pendant le voyage, quand c'est trop coincé, passe par un autre endroit. Alors il faut renégocier avec un autre pays, d'autres accords, ce qui n'empêche pas du tout les gens d'arriver nombreux jusque dans le 18e où j'habite, et de se faire arrêter comme au bon vieux temps. Mais monsieur, comment il s'appelle le fils de l'avocat là? Pardon? Oui, c'est ça. Dit que ce ne sont pas des rafles, étant donné qu'ils ne vont pas ensuite dans des chambres à gaz en groupe, ce qui est vrai. Ils ne vont pas dans des chambres à gaz. Sauf qu'on a toujours utilisé le mot rafle, y compris quand il s'agissait de, je sais pas quoi, de prostituées rue Saint-Denis. Donc on voit pas pourquoi ça serait moins des rafles quand il s'agit d'Africains. Qu'on chope à la sortie du métro quand il rentre du boulot. Voilà une vue d'ensemble de ce que j'ai appelé la terrorisation démocratique pour essayer de renverser cette paranoïa jouée ou réelle antiterroriste. Je répète ce que j'ai dit au tout début, je pense que ce système, aussi nuisible soit-il, notamment aux catégories les plus faibles, en l'occurrence évidemment les sans-papiers, on descend, les femmes sans-papiers, et les enfants, les mineurs, qu'on commence à dire « Ah ben oui, on les enferme avec leurs parents, si on les séparait, vous nous critiqueriez aussi. » Oui, évidemment. C'est réellement nuisible à des catégories comme ça, celles qui ont le moins de droits, mais je ne pense pas pour autant que ça puisse être considéré comme efficace aujourd'hui, et même que ça soit un réel danger contre un mouvement social, dans la mesure où c'est un danger contre des individus parce qu'ils sont peut-être plus surveillés et plus vulnérables. Mais quand il y a un mouvement social qui rassemble, qui immobilise les transports, qui immobilise des usines, quand il y a des milliers de personnes dans les rues, à Paris ça peut être des centaines de milliers de personnes, il peut y avoir des caméras partout, mais ça change absolument rien. C'est un système qui n'a pas les moyens en réalité de s'opposer réellement à un mouvement social. De toute façon, la question reste toujours la même. Comme toujours dans l'histoire, c'est-à-dire à un moment, ils se demandent s'ils nous tirent dessus ou pas. Et pour ça, ils n'ont pas besoin de toutes ces justifications antiterroristes et de tout cet appareil législatif. Voilà ce que je peux vous dire. J'espère ne pas vous avoir trop assommé ni découragé.